que vous avez passé une bonne nuit. Peut-être vous souvenez-vous qu'une des dernières paroles que j'ai dites hier soir, avant que nous nous séparions, parlant de ce que le Seigneur peut faire même la nuit dans notre sommeil, j'ai cité le psaume 127 qui dit « Il en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. » Et hier soir, je me disais « Que vas-tu me donner pour demain matin ?» J'aurais bien aimé le recevoir, ce texte, déjà hier soir. Mais il fallait que je reste dans l'espérance que le Seigneur allait réaliser la chose. Et figurez-vous que, à mon réveil, j'entendais distinctement cette parole que j'ai mis comme mot d'ordre du 10 octobre, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » C'était aussi net que ça. « Mon fils, donne-moi ton cœur. » C'est vraiment le mot d'ordre que je vais donner. Alors, évidemment, il faut savoir où ça se trouve, ce verset. Est-ce que c'est vraiment un verset biblique? Oui, dans les Proverbes, au chapitre 23. Alors, on prend sa Bible, on se met à lire le chapitre 23 des Proverbes, et je trouve bien « Mon fils, donne-moi ton cœur » et quelques versets avant, « Il y a un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » C'est dans ce même chapitre 23e. Alors, j'ai simplement obéi. Je ne sais pas pour qui le Seigneur dit cela, mais je veux croire que c'est pour tous. Et si c'est mon fils, c'est aussi ma fille. Donne-moi ton cœur. Au fond, ce que le Seigneur voudrait pour que nous vivions vraiment dans l'espérance, c'est que notre cœur lui soit attaché irrémédiablement et que chaque jour, à chaque heure, nous puissions aimer celui qui nous a aimés le premier, qui nous a aimés de l'amour de Dieu. Mon fils, donne-moi ton cœur. 10 octobre 1998. Est-ce qu'il en sera ainsi? S'il en est ainsi, vous pouvez être sûr que le verset 18e, se réalisera. Il y a un avenir. Est-ce que vous y croyez? Il y a un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. C'est merveilleux. Et alors on pense vraiment à ce que Paul nous a dit dans le chapitre 5 de l'épître aux Romains, cet épître que Luther lisait une fois par semaine pour en être bien imprégné. Avez-vous déjà lu cet épître aux Romains? La lisez-vous encore? Luther qui a été un instrument de Dieu pour le réveil des âmes, lisez cet épître une fois par semaine. Nous lisons au chapitre 5. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions. Dans quelle espérance? Dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il y a une espérance. Et quelle est cette espérance tout au bout du chemin? La gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. Vous êtes tous, j'en suis sûr, des gens qui passent par certaines afflictions. Je n'ai pas à les énumérer, mais quelles que soient vos afflictions, puissiez-vous, dès aujourd'hui, parce que vous aurez donné votre cœur au Seigneur, vous glorifier, même dans les afflictions. Au lieu de vous plaindre de vos afflictions, vous dire, mais le Dieu qui dirige tout même, puisqu'il s'occupe de moi, vous êtes sûr qu'il s'occupe de vous, puisque vous avez des difficultés, et que vous devez regarder à lui, crier vers lui. Quand tout va bien, on l'oublie. Quand tout va bien, on ne crie pas à lui. Mais quand on est dans la peine, alors tout à coup, il y a comme un réveil, et on crie à lui. Nous nous glorifions dans des afflictions, sachant que l'affliction produit quoi? La patience ou la persévérance, et la patience, la victoire dans l'épreuve, et la victoire, qu'est-ce qu'elle produit? L'espérance. L'espérance est le fruit d'une victoire, mais qui a dû connaître l'affliction. Or, l'espérance ne trompe point. Est-ce que vous êtes sûr de cela? Est-ce que nous avons une conviction ou simplement une opinion? Oh, que Dieu nous donne d'avoir cette conviction forte. L'espérance ne trompe point. Et vous devez repartir de ce lieu avec cette certitude que le Seigneur vous aura donnée. L'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh, si cela se réalise, vous ne serez pas venu à cette retraite en vain. Tout peut être transformé. Alors je vous laisse cette parole comme mot d'ordre. Mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur. Oui. Il y a un avenir, quelle que soit votre situation, mais acceptez de passer par ces étapes de l'affliction, de la persévérance, de la patience. Vous ne doutez pas de l'amour de Dieu. C'est déjà folie de douter de l'amour de Dieu. Il est amour. Il est amour. Alors, si nous le connaissons et que nous croyons qu'il est amour, nous ne sommes pas ébranlés par nos afflictions. Nos afflictions, c'est déjà dans le programme. Alors, quand on sait que ces choses sont dans le programme, on n'est pas étonné, on n'est pas surpris par l'épreuve. Mais j'ai eu cette certitude que ce 10 octobre, il y aurait des âmes qui donneraient réellement, comme ils n'ont jamais fait, leur cœur au Seigneur. Car c'est ça qu'ils nous demandent. Aujourd'hui, donne-moi ton cœur. Parce qu'évidemment, le monde voudrait avoir votre cœur. Le monde vous propose toutes espèces de choses, mais aucune ne pourra vous satisfaire. Seul Dieu peut satisfaire votre cœur et ses besoins infinis. Puissiez-vous le croire ce matin et commencer votre journée dans la louange. Dieu notre Père, nous plaçons toute cette journée sous ton regard et nous te remercions de ce que aujourd'hui c'est à ton Fils que tu vas regarder pour répondre aux besoins de nos cœurs. Tu ne vas pas répondre à nos besoins parce que tu trouves que nous en sommes dignes, mais parce que ton Fils est digne que tu lui répondes, car il a payé pour nous et il a tout porté. Comment ne l'aimerions-nous pas? Qu'il devienne notre bien-aimé, dans une réalité quotidienne. C'est la grâce que nous te demandons en te bénissant d'avance pour tout ce que tu seras, pour tout ce que tu nous révéleras. Oui, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Amen.
Amen.
Est-ce que tous ont reçu le petit feuillet vert? Nous ne voulons pas ouvrir ta parole sans te demander le secours de ton esprit pour que nous puissions la comprendre, la saisir et l'aimer tellement que nous la mettrons en pratique dans les jours qui viendront. Tu veux déjà que nous essayions ici de vivre ces choses, mais nous croyons surtout que c'est pour la suite que tu veux manifester les fruits de ce que tu nous demandes. Et ce que tu nous as demandé ce matin, c'est de donner notre cœur, le siège de nos affections, c'est que tu deviennes pour nous quelqu'un de vivant et que tu ne sois pas à côté de nous ou celui auquel nous avons recours seulement dans la détresse, mais que nous ne puissions plus rien faire sans penser à toi, et qu'ainsi tout notre comportement soit différent de celui du monde qui ne pense pas à toi, qui t'oublie ou qui a des idoles. Nous ne voulons pas d'idoles, nous voulons toi-même, ta personne, pour ta seule gloire, en t'attendant. Amen.
Amen.
Alors, vous prenez vos Bibles et les textes que vous allez méditer. Nous allons en faire une première lecture, parce que pour méditer la parole, il faut d'abord la lire. Et je vous conseille justement de lire cela à haute voix pour que vous vous en souveniez. Et même que vous appreniez ces textes par cœur, car ils sont importants. Qu'est-ce que c'est que l'espérance, d'une façon générale? L'espérance, c'est l'attente d'un bien que l'on désire, quel qu'il soit, d'une façon générale. C'est une attente de quelque chose, d'un bien que nous désirons. Alors, nous allons voir quels sont un peu, d'après l'Écriture, les caractères de cette espérance. Et en final, nous préciserons le but de l'espérance. Alors, nous avons proposé Colossiens, chapitre 1, verset 27. Mais si j'ai mis seulement un verset, je vous donne tout de suite cette indication que vous connaissez certainement. Il ne faut pas sortir un verset de son contexte. Alors on lit un peu ce qui est avant et ce qui est après. Et vous retrouverez le mot espérance dans ce livre. Colossiens 1, verset 27. Je pense que vous savez où trouver les Colossiens. C'est dans l'Ancien Testament?
Non.
Quelqu'un m'a écrit qui se souvenait, je crois que c'est ton frère. Hein? C'est toi? C'est Jean-Samuel, oui. Jean-Samuel m'a écrit une petite lettre pour mon anniversaire et puis il m'écrit: je me souviens bien de Rococo Galefico Tetete Tititifi. Et c'est les... C'est comme ça qu'on peut savoir où se trouvent rapidement les épîtres. Hein. Romains, la première épître de Paul. Et puis comme il y a deux Corinthiens, alors ça fait Rococo, il y a deux Corinthiens, Galates, Éphésiens et Philippiens, Colossiens, puis ensuite Thessaloniciens, il y en a deux, Titi de Timothée, et puis il y a Tite, ti, et puis Philémon, fi. Rococo Galefico, c'était ti, fi. Alors, vous avez tout de suite ça. Parce que c'est un peu pénible quand on voit des gens chercher dans la Bible dans les Romains, on ne sait pas où ça se trouve, et pourtant c'est la première épître de Paul. Et on pense qu'il y a 14 épîtres de Paul, hein, mais vous les avez tous comme ça. Alors, ça va? Nous sommes dans les Colossiens, c'est pas difficile à trouver, hein. Colossiens. Maintenant, le chapitre que nous avons indiqué, c'est le chapitre premier. Alors, on a dit le verset 27, mais pour le laisser dans son contexte, on va lire depuis le verset 24. Paul écrit: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Parce que l'Église complète doit être semblable au Seigneur Jésus. Et comme le Seigneur est parvenu en tant qu'homme à la perfection par les souffrances, eh bien, il faut que tous les membres de son corps, qui sera appelé le Christ total, c'est pas seulement Jésus dans le ciel, c'est Jésus et l'Église. Alors, il faut que en nous aussi soient consommées les souffrances. Il ne manque rien à l'œuvre de Christ, mais il voudrait que nous soyons comme lui. Alors, si on accepte Jésus, on accepte aussi les souffrances pour lui être rendu semblable. Et verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, donc de l'Église, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc vous voyez, il y a eu une révélation progressive. Tout n'était pas connu dans l'Ancien Testament. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, ce que vous aurez à noter, d'après les questions suggérées, d'après vos lectures, citez cinq expressions qui sont données à l'espérance. Eh bien, là, la première que vous noterez, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Qu'est-ce qui vous attend dans l'avenir? La gloire. Mais qu'est-ce que c'est cette espérance? C'est d'avoir le Christ en nous, pas à côté de nous, pas comme celui auquel on a recours quand on a tout essayé, puis que rien ne marche, alors on se tourne vers Dieu. Allez tout de suite au Seigneur, et vous perdrez moins de temps, et vous aurez de grandes bénédictions. Mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que le Christ habite en nous? Mon fils, donne-moi ton cœur. Il faut l'avoir donné pour qu'il puisse habiter en nous. Il ne vient pas habiter en nous si nous ne voulons pas. Qu'est-ce qu'il est dit dans l'Apocalypse? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a alors une communion réelle qui s'établit entre notre âme et le Seigneur. Et quand on a goûté à cette communion, on ne peut plus s'en passer. Comprenez-le bien. Notre vie chrétienne, c'est pas quelque chose qu'on a le dimanche matin ou quand on va à des réunions. Notre vie chrétienne, c'est une vie complète, totale. Il n'y a pas une chose qui sera faite sans penser au Seigneur. Quoi que vous fassiez, c'est moi qui exagère? Vous connaissez la parole. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre. Donc il faut contrôler ses paroles. Parce que vous avez vu que Moïse n'a pas été exaucé sur un point parce qu'il avait parlé légèrement. Dieu, il faut le prendre au sérieux. Alors, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Alors, quand on dit, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que le Seigneur ferait une chose comme cela? Qu'est-ce que vous savez? Vous avez une conscience. Et vous savez très bien qu'il ne la ferait pas. Ce que le Seigneur faisait, il dit à ses disciples, je sais qu'un jour vous me laisserez seul. Hein. Toutefois, je ne suis pas seul, parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent, les choses qui plaisent à Dieu. Le Seigneur faisait toujours des choses qui plaisaient à Dieu. Et si nous pouvions faire aussi toujours des choses qui plaisent à Dieu? Les choses qui ne lui plaisent pas, ça ne nous intéresse plus. Ce qui lui plaît, nous désirons le faire. Alors, nous sommes ouverts à sa volonté. Alors, vous allez méditer sur ce texte pour vous donner une première notion de l'espérance. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que la gloire, on ne l'a pas encore. On est encore dans la souffrance sur cette terre. Mais nous allons vers la gloire. Et l'assurance que nous avons, c'est que le Christ est là. Il a été ressuscité, il est vivant. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous allez méditer là-dessus et voir ce que le Seigneur vous dit lui-même. Quand vous prenez conscience que Christ est en vous, non pas à côté de vous, non pas simplement avec vous, mais en vous, pour inspirer vos pensées et vous conduire. Parce que nos actions sont le prolongement visible de nos pensées, et puis nos paroles aussi sont le prolongement audible de ce que l'on pense. Alors, ça dépend de quoi vous pensez. À quoi vous pensez? Mais s'il est en vous, vous pensez à lui. C'est le trésor de votre cœur. Deuxième lecture. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Rococo galefico tete. Alors, vous voyez où ça se trouve. Avant Timothée, vous avez les deux épîtres aux Thessaloniciens. Alors, comme c'est la première, vous prenez au chapitre 5, et là nous avons indiqué le verset 8, mais nous allons le remettre dans son contexte. Alors vous faites cette lecture. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, c'est-à-dire son retour, viendra comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire à une heure où on ne s'y attend pas. Hein. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est ce qu'ils essayent de faire, hein, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est pour ça que nous n'avons pas de crainte. Vous êtes tous les enfants de la lumière, les enfants du jour, puisque le Seigneur est en nous. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, nous sommes du jour. Est-ce que c'est vrai que nous sommes du jour? Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Voilà la deuxième expression que vous allez noter au numéro 2, l'espérance du salut. On a vu d'abord Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, nous trouvons l'espérance liée au salut. Alors, on laisse ça dans son contexte. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Parce que le salut, on le possède en espérance. Il a tout accompli pour que nous soyons sauvés. C'est fait. On ne remet pas cela en question. Mais le salut, c'est encore bien autre chose que ce que nous réalisons quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes dans la peine. C'est pas toujours facile, hein, mais nous nous réjouissons de son retour, parce que quand il viendra, il transformera le corps de notre misère en la conformité de son corps de gloire, et il nous enlèvera de ce monde où vous trouvez partout la présence de quoi ? De la présence du péché, hein. La présence d'un monde désobéissant qui renie le Seigneur. De sorte que nous nous réjouissons, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alors, il n'est pas question de préférer que le Seigneur vienne de jour, parce que de toute façon, pour les uns ce sera le jour, puis pour les autres ce sera la nuit, quelque part dans le monde, mais ce sera le même moment, mais ce ne sera pas le même jour. C'est pour ça qu'il est dit qu'on ne sait ni le jour, ni l'heure, parce que ce ne sera pas le même jour, mais ce sera le même moment. Mais pour les uns, ce sera telle date, pour les autres, ce sera un jour plus tôt ou un jour plus tard. De sorte que, pour les uns, ce sera la nuit, mais vous pouvez vous endormir tranquille, en paix, le Seigneur saura vous réveiller, comme notre frère nous l'a fait, n'est-ce pas ? Si André Monette a pu nous réveiller, le Seigneur peut nous réveiller. Et je n'oublie pas Marie-Pierre, soit que nous dormions, soit que nous veillions, nous vivions ensemble avec lui. La venue du Seigneur, la glorieuse espérance, c'est d'être avec lui un jour. Alors il faut quand même nous habituer de vivre avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous, c'est pourquoi on a fait rencontre, réciproquement les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Et je veux espérer que dans vos acquis, vous vivrez ces textes. Alors la Bible devient un livre vivant qui a un prolongement dans votre vie. Maintenant, prenons un troisième texte, Tite 1, verset 2. Est-ce que c'est difficile à trouver ? Ti. Avant Philémon. Ti. Et nous avons mis le verset 2. Mais alors, on lit depuis le 5 pour le laisser dans le contexte. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu, est la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Évidemment, si vous fréquentez les boîtes de nuit et tout ce que vous voulez, vous n'aurez pas cette connaissance. Il y a des lieux qu'on ne fréquente plus, pas parce qu'on est sous une loi, mais quel bien est-ce que ça peut me faire ? Comment seront nourries mes pensées ? Moi, j'ai un but, je veux arriver, puis je sais qu'il y a une récompense et que le Seigneur examinera tout de ma vie. Alors, cette connaissance de la vérité, elle est selon la piété. Et qu'est-ce que c'est que la piété ? C'est une relation avec Dieu. La piété, c'est tout ce qui concerne nos relations avec Dieu. Les impies, c'est des gens sans piété. Ils n'ont rien à faire avec Dieu. Mais si on a affaire avec Dieu, eh bien, on le recherche. Or, que dit l'Écriture ? Il n'y a personne qui recherche Dieu. Naturellement, on ne recherche pas Dieu. Mais quand on a été touché par la grâce, et cette grâce, elle est apparue à tous les hommes, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, du côté de Dieu, il n'y a pas d'obstacle pour le salut d'une âme, quel que soit son état actuel. Mais il ne se révèle qu'à ceux qui le recherchent. Lesquels reposent sur l'espérance, qu'est-ce que vous avez ici ? De la vie éternelle. Alors c'est le troisième point. On a vu D'abord, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et puis maintenant, il est parlé de l'espérance de la vie éternelle. Il est dit qu'elle est promise avant tous les siècles. Vous voulez contrôler? Quand est née l'espérance au fond? Quand l'homme a perdu la possession. Il n'avait la possession avant, dans le jardin d'Éden. Dieu était avec lui. Il avait la possession, mais quand il a été chassé, parce que Dieu est saint, trois fois saint, quand il a été chassé d'Éden, Dieu, tout en le jugeant, n'a pas pu s'empêcher de mettre dans son cœur une promesse d'espérance. Et l'espérance est née là. C'est quelque chose de merveilleux. Parce que le couple chassé a espéré. Parce que Dieu lui avait dit, en jugeant Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité ou sa semence et ta semence. Elle te brisera la tête et toi tu la blesseras au talon. Hein. Verset 15 du chapitre 3 de la Genèse. Elle te brisera la tête. Qu'est-ce que c'est ? À la croix, le Seigneur a brisé la puissance de Satan, la tête brisée. Mais Satan a réussi de blesser le Seigneur où ? Au talon. Le talon, c'est ce qui touche la terre. Quand vous marchez sur votre talon. Hein. Eh bien, Jésus a été touché par la mort dans son humanité. Il a revêtu notre humanité et il est mort, blessé au talon. Mais il a écraser la tête du serpent. De sorte que la promesse, elle est dès les temps éternels. Hein. Ça va loin. De sorte que vous devez lire l'Ancien Testament. Chaque fois vous êtes remis à l'Ancien Testament, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur voulait pour l'homme, la vie éternelle. Mais vous me direz, mais il l'a chassé loin de l'arbre de vie, puis il a mis des anges pour l'empêcher de venir à l'arbre de vie. Et vous pensez que Dieu a été dur? Non, il était bon. Parce qu'est-ce qu'il arriverait si l'homme avait pu, dans son péché, se nourrir de l'arbre de vie? Qu'est-ce qu'il y aurait? Il vivrait éternellement dans la souffrance et dans le péché. Il n'y aurait pas d'espérance. Eh bien, justement, l'espérance est née par une discipline de Dieu. Il l'a empêché de prendre part à l'arbre de vie parce que ce serait la pire des conditions de vivre toujours dans le péché, de vivre toujours sans Dieu. C'est pas possible. Alors Dieu a chassé l'homme, mais l'espérance, il l'a mise dans son cœur. Et Adam l'a cru, et puis Ève aussi, ils ont appelé. Elle a parlé de son fils en disant, j'ai acquis un homme. Comment? Avec l'Éternel, oui. Donc ils ont espéré en lui. Mais elle croyait que c'était déjà le premier. Et c'était Caïn. Mais c'était pas lui. Il a fallu attendre. Mais un jour, celui qui avait été promis dès les temps éternels apparut. Mais il a fallu que l'homme soit démontré incapable de plaire à Dieu. Alors il y a eu la loi. Et est-ce que l'homme a pu accomplir la loi? Non. Alors, quand il a été prouvé que l'homme était pas seulement pécheur, mais incapable de s'en sortir, le Seigneur est venu. Mais c'était promis dès les temps éternels. L'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles, par le Dieu qui ne ment pas. Est-ce que Jésus est venu, oui ou non? Donc Dieu n'a pas menti. Et qui a manifesté sa parole en son temps. par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre du Seigneur notre Sauveur. Et il est fait à titre son enfant légitime en notre commune foi, parce qu'on ne sépare pas la foi de l'espérance. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Que vous puissiez dans votre étude recevoir cette grâce et cette paix. C'est donc là troisième expression où vous pourrez l'écrire pour que vous vous en souveniez. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et puis, ensuite, nous avons vu en Thessaloniciens 5 l'espérance du salut. Et ici, l'espérance de la vie éternelle. Donc le salut, c'est la vie éternelle. Et ce Dieu, il ne ment point. Donc vous pouvez avoir une conviction. Il ne ment point. Il ne peut pas mentir. Prenez maintenant le passage suivant, Galates 5, 5. C'est après les Corinthiens. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, parce que la loi ordonnait de circoncire. Vous êtes déchus de la grâce. Mais si vous prenez simplement ceci en disant ben, pour que je sois sauvé, il faut que je sois circoncis, vous reculez. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Voilà encore une expression. L'espérance de la justice, vous la noterez comme au point 4 d'après ces versets. Et puis, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Alors que ces textes s'impriment en vos cœurs. Et vous verrez que si vous avez la foi, c'est pas une foi morte, hein, c'est une foi agissante. C'est une foi qui opère en vous, mais elle opère par quoi ? Par l'amour. Par l'amour. Et quel amour ? L'amour que Dieu a versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est cet amour qui nous assure que notre espérance, nous l'avons dit ce matin, chapitre 5 des Romains, notre espérance ne nous confondra point. Nous avons une espérance bienheureuse qui ne confond point pour la raison que nous avons soulignée, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. Je relis le verset 5 du chapitre 5 des Romains. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et vous voyez toujours l'action du Saint-Esprit en vous. Alors ne résistez pas à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne très sensible. Et quand nous lui résistons, nous le savons très bien. On est malheureux. Quand je ne fais pas ce que je dois, je suis malheureux. Alors, le Saint-Esprit est contristé en moi. Et dans ces moments-là, que devons-nous faire pour retrouver la joie? Si tout d'un coup nous avons perdu la joie, est-ce que c'est normal? Que dit l'Écriture? Personne ne vous vaut votre joie. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu que je perde la joie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois un déprimé. Si Jésus est dans mon cœur l'espérance de la gloire. Mais l'espérance de la gloire doit être plus forte que tout ce que vous trouvez autour de vous, que tous les ennuis possibles. Mais ça, ça vous oblige d'aller au Seigneur. Et quand vous allez au Seigneur, vous le trouvez. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Non, on ne demande pas. Il faut vraiment avoir affaire avec le Seigneur. Nous lisons maintenant le troisième et dernier passage qui nous fait revenir dans l'Épître aux Colossiens. Chapitre 1, verset 23. Je me réjouis, verset 24 qu'on lira depuis demain. Je me réjouis. Non, 23. Hein. Alors, verset 21. Et vous qui étiez autrefois, qu'est-ce qu'on était? Étranger. Est-ce que vous vous sentez encore un étranger vis-à-vis de Dieu? Allez à lui. C'est le moment de vous convertir alors. Et se convertir, c'est lui donner son cœur. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, voyez jusqu'où il faut aller, et par vos mauvaises œuvres, il y a d'abord les pensées, mais les pensées, elles ne viennent pas comme ça. Elles deviennent des mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Quand vous pensez que pour votre salut, il a fallu qu'un autre meure pour vous, est-ce que ça vous laisse indifférent? Quelqu'un est mort pour vous. Alors vous dites, oui, mais il est mort. Mais non, mais il est ressuscité, tu peux le retrouver. Et tu peux aller lui dire ta reconnaissance. Tu peux lui dire, même, si tu es mort pour moi, maintenant moi je suis mort pour le monde. Le monde t'a crucifié, mais moi, c'est fini avec le monde. Je veux te suivre. Quand on a réalisé que Jésus est mort pour nous et qu'il a tout souffert pour nous, comment ne pas aller à lui? Il nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Il avait pris ce corps de chair pour pouvoir mourir, parce que pour Dieu, on ne pouvait pas être acheté par de l'or, de l'argent, mais seulement par le sang de Christ, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche. Si du moins, vous demeurez, quoi? Fondé et inébranlable dans la foi. Opinion ou conviction? C'est une conviction. Tout cela doit devenir une conviction. Si du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de quoi? De l'espérance de l'Évangile. Voilà le cinquième terme ici, au sujet de l'espérance. C'est l'espérance de l'Évangile. C'est l'espérance que vous donne la bonne nouvelle que vous avez entendue. Que vous avez entendue, qui a été prêchée à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Eh bien, je veux croire que vous aurez une excellente méditation dans vos chambres sur ces textes et que vous prendrez le temps d'inscrire ces 5 espérances qui viennent d'être soulignées. Quelle question ? Alors, vous allez maintenant, vous pouvez passer prendre un café en passant par...